Henri Febvre, Le Verdet. Cette nuit-là, j'avais rêvé du Verdet. Ainsi appelle-t-on chez nous cette sorte de petit monstre, mi-lézard, mi-crapaud, flasque comme celui-ci, de forme ramassée, de tête camuse, hideux et féerique pourtant, par son corps translucide d'un vert d'émeraude, qu'on dirait fragile comme un cristal, irréel comme un corps de méduse, et aussi avec ses petits yeux ronds, tout rouges, d'un rouge de feu et de rubis. Ah, c'est rare, je ne l'ai jamais rencontré deux fois. Accroupi au bord de sa pierre et me fixant sans bouger de ses yeux diaboliques, moi vaguement en recul car il passe pour dangereux, de mortel venin comme celui de la vipère. Depuis des années je l'avais oublié. Pourquoi l'avais-je revu en rêve cette nuit-là? Toujours est-il qu'au matin, je m'étais réveillé encore sous l'impression étrange. Je le voyais toujours avec son corps de lumière pure et les deux rubis de ses regards. Puis je secouais la hantise. J'allais ce jour-là en province voir un ami, le docteur Bireille. Et le voyage acheva de me distraire de mon rêve. Il était loin, bien loin déjà, quand, après 2 heures d'express, j'arrivais à destination. Midi approchait, et dans la petite ville, sur le seuil des cafés, des habitués finissaient de prendre l'apéritif. Je me hâtais dans l'impatience de retrouver mon ami, quand à une terrasse, la physionomie bizarre d'un homme, d'un vieil homme, d'un bonhomme installé, malgré moi, m'arrêta. Repoussante et attirante à la fois, il me semblait avoir déjà rencontré cette figure, la reconnaître et en quelque sorte, sûrement j'avais déjà vu quelque part cette bouche de crapaud, cette peau flasque, cette chair anémiée et comme transparente, d'un gris translucide, presque bleu, ce corps courtois, cette tête camuse. Et tandis qu'involontairement, je cherchais les yeux, clairs comme l'eau d'une petite lueur rouge, comme un regard rouge, étincelant, et c'était tout simplement un rubis que le bonhomme portait en épingle de cravate. Mais ce fut plus fort que moi. Oh, mon Verdet! Un Verdet! Était-ce vraiment la ressemblance, une relation humaine, inexplicable, ou la hantise de mon cauchemar? Mais je le reconnaissais. C'était lui, le même monstre, devenu homme, homme reptile, homme verdet, de même qu'il y a des hommes renards, des hommes lièvres, des hommes lions. Car si Darwin a raison, ce n'est pas seulement du singe que nous descendons, mais successivement de tous les êtres, de toutes les bêtes qui ont vécu avant nous, depuis le Prosodoaire primitif, l'amibe intime, jusqu'aux plus nobles animaux, en passant par tous les degrés. Et tous, plus ou moins, nous incarnons une animalité lointaine. Il y a l'homme mouton, l'homme tigre, la femme chatte. Et j'avais devant moi l'homme Verdet. Lui, bien lui, avec le même air de crapaud, la même chair froide et lumineuse, jusqu'à ce rubis qu'il avait, comme si lui-même d'instinct avait éprouvé le besoin d'en de conformité plus parfaite, accroché à sa cravate, où, comme un petit œil rouge, l'œil de l'autre luisait. L'air bonasse et venimeux, pourtant, ne me retenait fasciné avec un dégoût insurmontable et presque de la peur, comme le vrai. J'ai dû m'arracher à l'obsession, si forte cependant, qu'en abordant le docteur, mon ami, je ne pus m'empêcher de lui en parler. Oh, le père Poussin, me dit-il, quand j'eus achevé ma description étrange. Qui est-ce? Oh, un monstre, tout simplement. Et devant mon émotion. Oui, un assassin, si tu aimes mieux. Eh oui, un de ces assassins, lâches et sournois, habiles, qui savent tuer sans bruit et sans risque, en marge de la loi. L'assassin de sa belle-fille, une fille magnifique, bien celle et très bien portante. Ça t'intéresse? Eh bien, écoute plutôt. J'écoute. Une fille qui n'était pas de lui, une fille de sa première femme, veuve celle-là, et avec laquelle le père Poussin s'était lié il y a quelques années et marié. Une fille riche, passablement riche par son père. Son vrai père, le premier mari de celui qui est mort. Ah oui, je commence à voir. Attends donc, attends. Alors, une fois marié avec ce Poussin, ce monstre, la mère a eu une autre fille, une petite fille de son nouveau mari, cette fois. Du poussin. Très bien, naturellement, jusqu'ici. Mais ensuite, elle est morte à son tour, la mère. Et Poussin est resté seul avec ses deux filles, tu comprends? La sienne, encore toute petite, et qui est en pension, et qui n'aurait dû avoir pour tout bien que le modeste patrimoine du bonhomme, tandis que l'autre, Suzanne, la belle-fille, la fille qui n'était pas de lui, était riche, riche et bien portante. Ah, embêtant ça. Ah, embêtant pour lui, hein. Car si seulement elle avait été malade, un peu malade, et qu'on eût pu espérer dans l'avenir. Vigoureuse et bien portante, mais splendidement, jusqu'au jour, pourtant, eh oui, un jour, il y a 2 ans environ, ayant été quelque temps sans la voir, je restais surpris de retrouver la belle Suzanne, la forte Suzanne, changée, si pâle, si amaigrie. L'air de dépérir, de s'étioler, sans cause apparente. Quel dommage, pensais-je. Mais que peut-elle avoir? Phtisique, peut-être? J'étais désolé, une si belle fille. Sans pouvoir intervenir, personne ne m'appelait. Le père Poisson ne semblait s'apercevoir de rien. Pourtant, les choses empirant, le coût-il plus habile, plus nécessaire, enfin, je fus appelé. Oh, en examinant bien, il ne me fut pas difficile de rétablir la nature du mal. Un mal dont les aiguilles d'or éparses sur le tapis me dénonçaient la source empoisonnée, la morphine. La belle fille se piquait. Elle finit par le reconnaître et, pressée de questions, par avouer c'est mon beau-père. Un jour que je me trouvais disposé, qui m'a montré, et puis. Mais il faut cesser, dis-je fermement, essayant de lui faire entendre le danger de son habitude, la folie du. Tout le suicide, la mort. Vous ne recommencerez pas. Elle promit, et je la quittai. Et depuis, oh, depuis, je ne fus plus appelé. Mais chaque fois que je rencontrais Suzanne, je l'observais. Et à la voir reprendre d'abord un peu de couleur, j'espérais. Quand, oh, c'est tout récent, je fus appelé de nouveau à la hâte. Le père Poisson faisait mine de pleurer et s'affolant, mais vite! Elle est tombée sans connaissance. On l'a mise sur le lit. C'est à n'y rien comprendre. Mais il n'y avait qu'à voir cette fille aussi blanche, raide et la seringue de pavage jetée à côté d'elle. Elle s'était infectée cette fois, injectée comme une dose trop forte. Qui l'avait foudroyée. Elle râlait. Elle était morte en 2 heures. Le père Voisin, désolé. Oh, c'est affreux, je savais pas. Mais il y avait quelque chose de si faux dans sa douleur, de si hideux, de si triomphant dans son regard trouble. C'est lui, j'en suis sûr. Qui, après l'avoir aidée, l'a encouragée, lui a fourni l'instrument du poison. C'est lui, c'est à lui qu'est due la manie fatale de Suzanne. Il l'a tuée, l'a aidée, l'a poussée, lâchement et sournoisement à se tuer. Et naturellement, la petite seule a hérité. Oui, elle a hérité. C'est elle qui est riche maintenant, la fille de l'assassin. Un monstre, je dis. Celui de mon rêve. Fait homme. Incarné et total. Jusqu'au venin mortel. Ah, ça. Y aurait-il vraiment des analogies, des. Parenté monstrueuse, des relations lointaines, ancestrales, mystérieuses. Qui sait, fille Oleille, qui sait, que sait-on? Oui, que sait-on? Oui, que sait-on?